Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Au moment de la fondation d'Artevan, je t'avais dit que je voulais pas du tout être entrepreneur. Et du coup, je me suis certainement dit pourquoi pas moi, très clairement, parce que je suis devenue ce que je pensais que je ne serais jamais. Et en toute cohérence, donc c'est ça l'absurdité de la chose, c'est que parfois on est cohérent alors même que c'est exactement, on pensait ne pas être fait pour ce métier. Je pensais ne pas être faite pour être entrepreneuse, ne pas être capable de mener une entreprise au profit. Maintenant, je me dis pourquoi pas moi qui fais du profit. et le profit, c'est profitable à la société. Voilà. Et donc oui, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je suis pas présidente de la République, mais je suis présidente de quelque chose qui est utile à la société.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Un immense merci à Anne-Sara de s'être livrée ainsi derrière mon micro. Elle partage à cœur ouvert sa vulnérabilité, ses questionnements, ses déceptions et la perte de 2 enfants. Être entrepreneuse et mère d'une famille nombreuse, c'est possible. Elle en est la magnifique preuve. Le rêve d'Anne-Sara était de faire l'ENA, mais la vie l'aura amenée sur un tout autre chemin. Après des études littéraires, elle fait une grande école de commerce, puis passe son barreau. En voyant son profil LinkedIn, on pourrait croire que la route a été toute droite. Pas vraiment. Anne-Sara a su prendre des portes dérobées, tout en restant fidèle à qui elle est. Aujourd'hui, elle est la maman de 5-7 enfants et fondatrice de la première école en ligne d'art et d'artisanat en France, Artesane. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne-Sara Balu-Samuel. Bonjour Anne-Sara.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, c'est vrai que j'ai choisi un stylo. C'est pas n'importe quel stylo, puisque c'est un stylo qui m'a été offert par mon mari. Donc déjà, ce qui lui confère une valeur sentimentale évidente. J'ai choisi un stylo parce que je pense que ce qui me relie, ce qui me constitue, ce sont les mots. J'adore écrire à la plume, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un stylo. C'est un peu... Voilà, j'ai même commencé ce que je fais aujourd'hui par des mots, puisque c'était par un blog et les gens venaient autant pour les photos que pour le lire. Je crois qu'ils aiment bien que je leur raconte des histoires. C'est peut-être une vie future que je me réserve d'écrire des livres. Et puis, ce stylo, il a la particularité certes d'être un cadeau, mais un cadeau que j'ai demandé. Ce qui m'arrive jamais, je demande pas de cadeau, je sais jamais ce que je veux, j'ai jamais de besoin, et je pense que de toute ma vie, c'est le premier cadeau que j'ai demandé à mon mari où j'ai été capable de formuler un désir et un besoin. Donc, il était ravi de me l'offrir, et moi, je l'ai toujours sur moi. Voilà.
Ça fait combien de temps, du coup, que tu l'as?
Ça fait 1 an, donc pour te dire que j'ai mis du temps à trouver ce dont j'avais besoin, puisque j'ai 37 ans, donc c'est une étape de ma vie à 36 ans d'avoir su identifier quelque chose dont j'avais besoin.
Et qu'est-ce qui, selon toi, quel a été l'élément déclencheur dans ta vie qui a permis que tu puisses justement identifier ton besoin?
Je suis pas sûre qu'il y ait d'éléments déclencheurs. Je pense que c'est une série... Peut-être que l'élément déclencheur, c'est justement mon mari qui me demande toujours d'apprendre à identifier mes besoins. Et je pense que c'est juste une forme de maturité et une maturité pas encore accomplie puisque je sens que c'est toujours quelque chose de difficile, mais cette année encore, à Noël, je lui ai demandé quelque chose. Donc c'est que je tiens le bon bout.
Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi?
Oui. Alors j'ai grandi à Dakar. Je suis née à Paris. Mes premières années étaient à Neuilly-sur-Seine, mais j'ai grandi à Dakar. Dakar, donc au Sénégal. Mes parents étaient, mon père était diplomate et ma mère l'a suivi. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, très dorée aussi, on va pas se mentir, mais oui, Dakar pour moi c'est plusieurs choses. C'est déjà l'amour des tissus qui m'a suivie ensuite, puisque je faisais beaucoup les marchés avec ma mère, et les marchés de Dakar sont des marchés où il y a beaucoup de textiles très colorés. Donc l'amour des tissus me vient de là. Dakar, c'est aussi pour moi, c'est le soir à 18h sur la corniche, donc il y a une longue corniche qui longe quasiment tout Dakar. C'est l'arrivée de centaines, voire de milliers d'hommes qui viennent faire leur sport ensemble au soleil couchant. C'est un mouvement spontané, mais c'est une des images qui a marqué mon enfance puisque je la voyais tous les soirs. Et même si j'ai une enfance dorée, je pense que grandir dans un pays étranger, grandir dans un pays qui n'était pas le mien, et j'étais pas au lycée français, j'étais dans une école sénégalaise, ça m'a permis déjà de savoir ce que c'était qu'être étrangère, de savoir ce que c'était que se confronter à une autre culture, que ce soit à l'école, dans la rue, d'avoir des repères différents, et ça me nourrit encore. Après, c'est quelque chose de très important, le Sénégal pour moi, tellement important que j'ai pas réussi à y retourner, parce qu'on sait que le monde de l'enfance, il y a une chanson de Barbara très triste que j'aime beaucoup, mais qui est très vraie, qui dit qu'on retrouve jamais son enfance. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'allais à Dakar, je retrouverai plus ces odeurs, je retrouverai plus ma maison qui a été détruite, je retrouverai plus rien. Donc, mais je pense que Dakar m'a appris ce que c'était que le bonheur. Voilà.
Bon, chouette. Tu y as été de quel âge à quel âge?
J'y ai été 6 ans. Mais 6 ans, quand on est enfant, c'est beaucoup. Voilà.
Et c'est sûr que de passer de Neuilly à Dakar, c'est
un changement. C'est... Oui, et puis de revenir à Neuilly ensuite. Ouais. Du coup, oui, effectivement, ça a créé des chocs aussi, mais des chocs qui, je pense, font ce que je suis aujourd'hui.
Mmh. Et quand t'étais une petite fille, c'était quoi tes rêves?
Alors, je voulais être deux choses. Je voulais être présidente de la République.
Ok.
Et qui mène. Oui. Alors, président de la République, je ne sais pas si c'est un rêve que j'accomplirai. Écrivaine, j'espère bien. Ouais.
Pourquoi présidente de la République?
C'est une bonne question. Pourquoi à l'époque je voulais l'être? Parce qu'aujourd'hui j'ai une réponse d'adulte qui est vraie, mais qui est que j'ai très envie de servir, de me sentir utile. Mais la réalité, je pense que dès enfant j'avais envie de diriger, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Je pense que déjà, j'étais très attachée à mon pays. Tu vois, je commence par te parler de Dakar et je te dis que j'étais très attachée à la France. C'est vrai. J'étais fascinée par l'histoire de France, par la Révolution française. C'était une passion d'enfant, ces histoires de déclaration des droits de l'homme. Mon film préféré s'appelait La Révolution française. Donc déjà, j'avais vraiment une passion pour mon pays, peut-être aussi parce que j'en étais loin et donc il me paraissait beau de loin. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais voilà. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose et que je m'engage dans cette histoire. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours élevée de façon… Alors, les deux, bien sûr, ma mère aussi, mais je vais parler de mon père plus parce que… parce que c'est pas forcément un rôle à l'époque que les hommes tenaient. Mon père m'a toujours dit qu'en tant que femme, il fallait que je ne m'interdise rien et que j'accepte si j'avais envie de diriger. Que ma mère aussi me l'a dit. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Enfin, dans sa vie, elle a toujours été aussi très libre. Mais voilà. Et c'est vrai que je voyais mon père. Qui était, il est à la retraite maintenant, un grand serviteur de l'État. Ça me paraissait très très noble. Il avait vraiment le sens du service et j'ai hérité ça de lui. Voilà. Et donc j'avais envie d'être présidente pour ça.
Trop chouette. Et donc du coup, tu fais Neuilly, Dakar, Neuilly. Comment ça se passe le retour en France?
Avant Dakar, avant Neuilly, je suis rapidement passée par Jakarta en Indonésie. Le retour en France se passe moyennement parce que de Dakar à Jakarta et de Jakarta à Neuilly, il y a des choses toutes bêtes. Quand on a eu une enfance très protégée avec des journées d'école qui s'appellent les journées continues, donc moi j'allais à l'école de 7 à 13 heures. Je savais pas ce que c'était que traverser une route ou une rue, parce que à Dakar ça marche pas trop comme ça, en tout cas pas quand on est petit. À Jakarta c'est une ville de voitures. Je mettais 2 heures tous les matins en voiture pour aller à l'école. C'est une ville très encombrée, très polluée. Je savais pas en fait aller à l'école. J'habitais à 200 mètres. Je ne savais pas faire ça. Donc déjà je me suis sentie très nunuche.
Avec quel âge?
J'avais 12 ans, donc
pour le collège,
oui, pour le collège, je savais pas prendre un bus, je savais pas prendre un métro, donc déjà je me suis sentie un peu en retard sur mes autres camarades, et en revanche j'avais pas forcément les références qu'ils avaient, j'en avais d'autres, donc à cet âge-là c'est pas toujours facile, c'est le début de l'adolescence, c'est le moment où… donc oui ça a été assez difficile, surtout que je suis rentrée dans un lycée privé catholique de filles.
Voilà. Déjà que les enfants sont pas tendres entre eux, les filles entre elles.
Moi j'étais un peu un garçon manqué et donc voilà, ça a été difficile, mais c'est très bien parce que ça m'a appris aussi qu'il faut être ouvert dans tous les sens. C'est facile de dire on est ouvert quand on est enfant de diplomate, qu'on a vu le monde entier, mais à l'inverse, il était nécessaire que je m'ouvre à mes camarades à Neuilly, il était nécessaire que je m'adapte et voilà, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre et je suis contente d'être passée par là, même si ça n'a pas été facile.
Tu as des frères et sœurs?
J'ai une petite sœur, ouais.
Donc, du coup, vous n'avez pas forcément, si elle est plus petite, elle est beaucoup plus petite que toi?
Non, elle a 2 ans de moins que moi.
Donc, elle a du coup vécu un peu comme toi aussi, c'est…
Oui, longtemps, elle a dit, quand on est arrivé en France, elle disait qu'elle voulait rentrer à la maison. Et la maison, c'était clairement pas la France, c'était le Sénégal. Donc, oui, ça a été compliqué.
Comment ça s'est passé, du coup, les études pour toi, au moment de choisir,
de choisir ce que je voulais faire. Mais j'ai continué à vouloir être présidente de la République. les études, ça s'est passé, je dirais, avec des hauts et des bas, parce que j'étais une bonne élève, avec les défauts des bonnes élèves. Donc peut-être avec l'envie de… Oh, je me suis mis beaucoup de pression. Et je dirais pas d'ailleurs que je regrette de mettre la pression, mais je me suis mis la pression. J'étais dans un collège lycée que tu connais, donc tu sais combien il peut être exigeant, tenu par des jésuites. Donc les jésuites, la philosophie, enfin d'Xavier exactement, mais c'est la philosophie jésuite. Donc la philosophie jésuite, c'est qu'on peut toujours mieux faire. Et des parents exigeants aussi, qui m'ont beaucoup poussée. qui avait ma mère est libanaise, donc elle a fui la guerre et donc elle savait ce que, enfin je pense qu'elle avait été très bonne élève aussi, mais bon, je crois que donc elle apportait un peu de douceur dans l'exigence du lycée. Et mon père et lui était boursier. Il a fait le parcours parfait, HEC Sciences Po l'ENA. On avait beaucoup de parfait. Je parle au sens académique, hein,
oui, mais on s'entend. Mais en tout cas, impressionnant sur le CV.
Oui, et donc moi, il fallait que je réponde à ça, et mes parents voulaient que je fasse une prépa. Et d'ailleurs, moi, je voulais faire une prépa.
Puis à Sainte-Marie, là où t'es. Enfin, moi, j'étais pas à Sainte-Marie, mais j'étais au bout de la rue.
Oui.
Mais en tout cas, c'était une mentalité où tu fais pas une prépa, tu t'as raté ta vie déjà. Enfin, moi, je sais que j'avais fait ES, on me regardait genre.
Oui, déjà ES. Donc,
déjà
c'est pas
ES,
très bien.
J'avais un peu l'impression d'être une paria. De toute façon, les L, il y avait même pas L, hein, c'était S, ES. Il y avait deux classes de ES, trois de S, parce que bon, ils nous acceptaient quand même un peu, mais voilà, tu faisais pas de prépa, c'était, et puis bon, il fallait faire les plus grandes prépas de France, sinon t'étais en échec.
Ouais. C'est ça, et je me souviens, donc moi, je voulais faire une prépa, et m'a d'abord dit à Sainte-Marie que, voilà, la personne qui s'occupait de nous m'a dit, mais Anne-Sara, tu n'y songes pas, tu es au ras des pâquerettes.
Ah,
je ne peux même pas envisager une prépa. J'avais une super prof de français qui m'a poussée à faire elle, parce qu'évidemment, comme tu le disais, même si Sainte-Marie était plus tolérant avec les L que Sainte-Croix, mais oui, voilà. Je voulais faire elle, j'adorais les mots, j'ai dû l'imposer parce que voilà, mes parents ils auraient été plus rassurés.
Surtout que elle c'est beau, enfin tu vois, enfin moi c'est ce que je disais à l'époque, c'est que bon, moi je voulais pas faire elle parce que il y avait pas de sujet, mais c'est beaucoup plus difficile la elle, parce que c'est, enfin le maths c'est bon, c'est pas bon, enfin c'est beaucoup plus difficile d'être bon en elle que d'être bon en, enfin après ça dépend de son cerveau, mais en tout cas c'est les gens qui réussissent en elle, c'est des gens waouh, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a toujours impressionnée.
Oui, alors que moi, je suis très impressionnée par les gens qui réussissent en maths, parce que clairement, il me manque une case de ce côté-là. Donc, mes parents, au départ, ont eu un peu peur, hein. Ils voulaient vraiment que je fasse S, parce qu'on leur avait dit d'avoir un INCS. J'ai fait L, et de ce choix-là, je retiens que c'était le bon, pour plein de raisons. Et le premier, c'est que si on a une attirance pour quelque chose et qu'on est bon dans ça, ça paiera toujours, pour peu qu'on y mette les moyens. Et donc moi, je voulais pas faire normal sup, mais bon, donc j'ai fait L, j'ai fait une prépa, j'ai été à Henri IV, n'en déplaise à la personne qui m'avait dit que j'étais au ras des pâquerettes. C'était mon choix, donc vraiment j'ai adoré la prépa. C'est vrai que c'est quelque chose de très exigeant, mais je tiens à dire aussi que si on a envie de le faire, eh ben on le fait. Voilà. Et si on n'a pas envie, on le fait pas. Dit comme ça, ça paraît très simple, ça l'est beaucoup moins à cet âge-là. Comment?
Il faut écouter,
oui,
ce type.
Il faut un peu écouter, en tout cas, son envie profonde, son caractère. Moi, j'avais un caractère de bonne élève, donc, j'aime bachoter, j'aime les concours, j'aime la compétition. J'aime pas la concurrence. Voilà, j'aime bien. Mais je suis arrivée à Henri IV dans une classe hyper sympa où on partageait tout, et la compétition, elle aurait lieu qu'à un seul moment, le moment de l'examen final. Et donc, je me suis éclatée en prépa, je suis sortie de mon carcan, j'ai fait de la fête. Voilà, c'est important pour moi de dire qu'on peut avoir une vie en prépa. J'ai sans doute eu la vie la plus, j'espère que mes parents n'écouteront pas ça, la plus délurée possible, parce qu'en plus j'étais partie de la maison. Donc ouais, la prépa c'était trop chouette. J'ai rencontré des professeurs passionnants qui m'ont animée, etc. c'était très dur. Parce qu'il faut effectivement beaucoup travailler, parfois on est fatigué. Moi, je voulais pas faire normal sup, donc très vite j'ai su que je voulais faire une école de commerce. J'ai tout mis là-dedans et j'aurais fait ES ou S, j'aurais jamais intégré HEC, jamais. J'ai clairement pas le niveau en maths. Voilà, j'ai intégré HEC avec latin langue vivante 1. Donc voilà. Pourquoi? Parce que j'étais forte en latin. Je l'ai mis en langue vivante 1 parce que HEC a cette absurdité de placer le latin en langue vivante. Voilà. Faites les choix. Moi, je me dis, il faut toujours faire les choix. C'est la théorie des avantages comparatifs en économie. Enfin, il faut faire ce dans quoi on est le meilleur. Et souvent, on aime là où on est le meilleur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça, ça m'a beaucoup plu. HEC, ça m'a beaucoup moins plu une fois que j'y étais.
Pourquoi ?
Je pense que, comme beaucoup d'élèves de prépa, j'avais une telle richesse d'apprentissage que déjà j'ai été déçue en arrivant à HEC et que j'avais peut-être pas la maturité pour savoir en tirer le meilleur à l'époque. Je pense qu'il faut parler sans tabou aussi. HEC, pour moi, ça a été assez difficile parce que j'ai très mal vécu la façon dont étaient traitées les filles. C'est une école de commerce. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais le jeudi, il y a des soirées qui sont assez connues dans le milieu étudiant. On est de la viande. Enfin, on était de la viande. Il y a des pratiques qui ont été dénoncées, mais moi, je veux les dénoncer aussi. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je profite de ton podcast. On fait boire les filles. On arrive à HEC, on a 18 ans, 19 ans, on est jeune encore. Donc, le rapport à l'alcool, il est excessif. Il est pas toujours maîtrisé. Donc les garçons font boire les filles, alors ils boivent aussi d'ailleurs. Donc il y a des pratiques, je ne sais pas si elles existent, mais à l'époque qui s'appellent les dîners cuissons, où le but c'est de prendre du mauvais vin et de se mettre minable le plus vite possible. Alors évidemment que les étudiants se mettent des cuites, on l'a tous fait, etc. Mais là c'est une pratique institutionnalisée qui a lieu tous les jeudis et après ces dîners il y avait les soirées. Et donc, on a des filles en état parfois passablement alcoolisées ou des garçons passablement alcoolisés. Et la notion de consentement, elle disparaît souvent. Voilà, moi, je sais que c'est important de le dire. Je l'ai très mal vécu. Je suis pas la seule. Et moi, j'ai du coup voulu quitter le campus parce que je ne supportais plus cette pression ou ces gestes à la limite de l'agression sexuelle. Cela dit, est-ce que l'école doit être tenue responsable? Ça, c'est un autre sujet. Il y a plein de bonnes choses à HEC. Je pense qu'il faut y avoir un discours mesuré. HEC m'a apporté plein de choses, mais voilà. Au début, ça a été très dur pour moi, la vie de campus, parce que je supportais pas ça et que j'avais été éduquée dans l'idée que je devais être propriétaire de mon corps, libre et décisionnaire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que malgré toute cette éducation que j'avais reçue, parfois on n'est pas en position de force et quand on est une fille malgré ça on n'est pas en position de force et on peut nous imposer des choses c'est important de le dire parce que je pense que les choses sont peut-être en train d'évoluer un peu dans les écoles. Je jette pas la pierre à HEC, c'est comme ça dans beaucoup d'écoles de commerce, de médecine, de... Mais donc moi j'ai décidé de quitter le campus. J'ai continué mes études, mais je faisais 2-3 heures de transport par jour pour aller sur le campus qui est pas tout près et revenir parce que je voulais pas justement me retrouver dans cette position de faiblesse, de contrainte, ou tout ça. Et voilà, j'étais nulle en maths, donc ça rendait les choses quand même compliquées une fois qu'on y était. Et je me demandais un peu ce que je faisais là quand même. Je me disais, mais pourquoi en fait, qu'est-ce que je vais faire avec HEC? Je me voyais rien de tous les métiers proposés. Je me voyais pas dans le conseil, je me voyais pas dans le marketing. Voilà, je savais pas ce que j'allais faire de tout ça.
Et du coup, comment tu t'es dit la suite? Qu'est-ce qui t'est...
La suite est un peu venue par hasard. Alors, comme j'étais littéraire, naturellement, le droit m'intéressait plus que le reste. À HEC, on pouvait faire une filière en double cursus. Donc, j'ai décidé de suivre ce double cursus. Et à la fin d'HEC, j'ai passé mon barreau. On va être honnête, hein, le droit des affaires, c'est pas mon truc. C'est ce qu'on apprenait à HEC, c'est logique. Donc j'ai passé mon barreau, mais je me voyais pas en cabinet d'avocat. Je me demandais ce que je fichais là. On avait des horaires pas possibles jusqu'à 2h du matin à s'occuper de LBO et de trucs comme ça. Et pardon à mes maîtres de stage de l'époque, mais j'étais nulle. J'étais nulle parce que ça me parlait pas du tout. Les millions des multinationales, je leur jette pas du tout la pierre, c'est très bien. Il faut qu'elles gagnent leur vie, qu'elles fassent leur montage financier. Mais ça ne me parlait pas. C'était chinois, donc je sais pas trop comment j'ai réussi à avoir mon barreau, mais ça s'est bien passé. Mais aussitôt, je me suis mariée entre les écrits et les oraux de mon barreau. Et dès que je l'ai eu, je me suis dit, je ne peux pas, je ne veux pas être en cabinet d'avocat d'affaires. Donc il faut que je fasse autre chose. Et là, je me suis dit, si je passais l'ENA. Alors là, mes parents étaient désespérés. Elle a fait plein d'études. Elle a enfin fini. Elle veut passer l'ENA. Mon père était au désespoir, mais pas trop quand même, parce que ça lui faisait plaisir que j'ai toujours cette fibre-là. Et mon mari était en train de monter sa boîte à l'époque, après avoir fait du conseil. Et on s'est dit, fichu pour fichu, entre les démarrages d'une boîte et un concours très difficile, on va y aller. Et puis voilà, donc j'ai commencé par le préparer seul. Puis j'ai réintégré une classe prépa. Je t'avais dit que j'aimais bien ça. Voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant, je me suis éclatée. Et j'ai passé deux fois l'ENA. La première fois, je l'ai ratée. La deuxième fois, j'ai été admissible. Et je l'ai ratée en fait à l'oral. D'une place. Donc, je me suis toujours dit que j'aurais un peu plus travaillé mon sport, ça serait passé. Ma nullité en saut à hauteur m'a perdu. On s'est tous un peu demandé. Enfin, je dis on s'est tous, mon entourage s'est un peu demandé ce que j'allais faire. Et comment j'allais survivre à ça. Survivre, c'est un grand mot. Mais depuis toute petite, je disais, je veux passer cette école, je veux être présidente de la République. C'était mon rêve d'enfant. Et on a souvent envie de réaliser son rêve d'enfant. Mon entourage était authentiquement dévasté. Moi, je l'ai raté en plus de vraiment très peu. Hein, comme je te dis, ça s'est joué à... J'étais la première recalée. Le grand oral s'était très bien passé, c'est pas ça qui m'a fait rater. Donc tout ça pour dire que le tableau, enfin c'était un séisme autour de moi. Et moi c'était pas un séisme. Alors soit c'est que j'ai une bonne capacité de résilience, peut-être, sans doute même. Mmh. Parce que quand on voit son rêve d'enfant s'effondrer, c'est vrai que. Mais au moment où j'ai passé l'ENA, je cousais déjà beaucoup. C'est ce qui me permettait de tenir en classe prépa, parce que c'est chouette les prépas, mais faut avoir de quoi s'aérer. Je suivais des cours en ligne. Et depuis toute petite, j'adorais les savoir-faire, etc. J'avais vraiment poussé dans la couture. J'avais atteint un niveau quasi professionnel moi-même. Et voilà, lors du grand oral, le grand oral de l'ENA, à l'époque, il y avait une partie un peu entretien classique. Il y avait des questions beaucoup plus techniques et tout, mais on donne son CV. Donc, j'avais marqué la couture sur le CV, donc ça leur avait donné l'occasion de me faire passer sur le grill sur tout le textile économique, enfin tout le tissu textile économique en France, des crises économiques du textile, le machin. Et à la fin, ils me posent des questions plus personnelles sur ils me disent, mais si ça a une telle place dans votre vie, mais quoi, vous n'en faites rien, pourquoi c'est pas dans votre projet professionnel, etc. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où j'ai raté l'ENA, après cette journée passée dans le noir à actualiser seule dans ma chambre la liste, et où tout d'un coup on n'apparaît pas, quoi.
Pour le Minitel à l'époque.
Oui, c'est ça. Ça y est, c'était la première
Internet.
Ouais. Et où on n'apparaît pas, et où normalement, moi je me suis juste dit bon, ok, ça sera pas ça. Mais quand même, je crois qu'il y a quelque chose qui me titille. C'est de monter une boîte en rapport avec l'enseignement. Et quelque part, je t'ai dit que j'adorais la prépa, je t'ai dit que j'adorais enseigner. Enfin non, que j'adorais apprendre. Mais c'était dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est prépa, souvent, quand on a fait une prépa, on peut ensuite enseigner. Donc, j'avais beaucoup donné des cours à des élèves en prépa. J'avais fait passer des connes. Et j'adorais moi-même continuer d'apprendre. Je suis la fille qui se demande encore si elle va pas s'inscrire l'année prochaine en licence 1 de psycho, passer 18 CAP, etc. Donc ça, je sais pas. Ça, pour le coup, ça s'est fait très vite, mais en janvier, je travaillais sur le business plan de ce qui est aujourd'hui Artesan, donc l'entreprise que j'ai fondée. Et il y a quasi pas eu de transition, quoi. J'ai pris mes 3 semaines de vacances à Noël après ces 3 années un peu charrette. Et puis j'y suis allée, voilà, avec le soutien total de mon mari, avec l'étonnement de mon père, l'angoisse totale de ma mère, surtout que je suis tombée enceinte après, donc elle s'est dit, ça y est, ma fille a fait 10 ans d'études, mais elle ne veut pas en faire quelque chose. Elle va choisir d'être mère au foyer pour 1000 raisons. Je pense que c'est quelque chose qui angoisse ma mère. Pour avoir beaucoup d'enfants, je sais que mère au foyer, c'est un job à part entière. Mais voilà, à l'époque, c'était un sujet d'angoisse. Donc voilà, et quelque part, toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Ma passion de l'enseignement, le fait que j'avais fait HEC, je savais pas trop pourquoi, mais finalement, HEC, c'est une école très généraliste, donc on apprend la gestion, j'avais appris le droit. Enfin, j'étais armée pour diriger une entreprise, on n'est jamais armé, mais en tout cas pour monter une boîte,
toutes les bases
au départ. Ouais, j'avais toutes les bases. Donc voilà mes études, où elles m'ont menée. Après, j'étais passée vite sur les cabinets d'avocats, tout ça, parce que bon, c'est vrai que j'en retiens pas grand-chose. Donc oui, j'ai eu des expériences professionnelles à ce moment-là, mais j'ai plus retenu de mes études, et c'est ça sur quoi je voulais dire.
Et donc là, quand tu commences à réfléchir sur Artesan, c'est quoi à ce moment-là?
Eh ben, ce qui m'importe à l'époque, et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui m'importe toujours, donc on change beaucoup, mais sans jamais vraiment changer, c'est que j'ai envie de faire quelque chose qui... Déjà, je crois dur comme fer en ligne. Parce que moi, ça m'a permis d'apprendre. Donc, parfois, on répond à ses propres besoins. C'est très égocentrique. Mais en tout cas, je suis persuadée que ça marche.
Je sais pas si c'est, tu vois, je me permets de te couper. Je sais pas si c'est égocentrique. C'est ce que m'avait dit ma psychiatre à la fin de mon burn-out, qui m'avait, quand j'avais dit, je vais créer le podcast. Et elle m'a dit, vous savez, on crée souvent quelque chose qu'on aurait aimé justement pour aider les autres. Donc je sais pas si c'est de l'égocentricité ou plutôt du partage, de dire bah voilà, moi ça c'est ce que j'aurais aimé faire. Pareil, tu vois, le bilan de compétences nouvelle génération, c'est exactement le programme que j'aurais aimé faire. Et du coup, c'est finalement d'offrir au monde ce que nous on aurait aimé avoir.
C'est vrai que je t'avais entendu dire ça quand tu es venu témoigner, et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, je vois les choses autrement. Effectivement, répondre à son besoin, c'est répondre à un manque qui est plus général. Et en ce sens, je pense que c'est peut-être pour ça qu'Artesan a fini par fonctionner. C'est que effectivement il y avait un manque. Enfin moi vraiment je suis persuadée que quand il y a quelque chose à partager, un enseignement, tout le monde doit y avoir accès, et que l'enseignement doit pas être nivelé par le bas mais par le haut. Et donc moi ça c'est ça qui a vraiment été au fondement d'Artesan. C'est je voulais que tous les secrets d'atelier en couture, tout ce que les gens ne divulguent pas, notamment, surtout dans la couture, parce qu'en cuisine, c'est très différent, les chefs ont l'habitude de la médiatisation, ça soit offert au fin fond de la Creuse, à Hawaï, et je suis persuadée que c'est comme ça que les savoir-faire vivent, et que un passionné, même s'il est néophyte, il a le droit d'entendre le meilleur, il a le droit d'apprendre le meilleur, même si Madame Durand à Luxeuil-les-Bains, allez, c'est près de Vesoul, dans les Vosges, enfin en Franche-Comté, Madame Durand à Luxeuil-les-Bains n'a peut-être pas vocation à devenir la meilleure, mais c'est pas parce que elle veut peut-être juste apprendre et être curieuse, mais c'est pas parce qu'elle ne veut pas devenir la meilleure qu'elle n'a pas le droit au meilleur contenu et qu'elle n'a pas le droit d'être curieuse de ça. Et donc paradoxalement, on peut se dire que j'ai fait des études élitistes. Mais ce qui m'a animée dans ces études-là, et puis du reste, je parlais du Luxeuil-les-Bains parce que c'est là d'où vient mon père. Moi, j'ai vraiment été persuadée, je suis convaincue que le meilleur doit être pour tout le monde. Et donc, Artesan, pour moi, devait offrir le meilleur à tous ceux qui s'y intéressaient, et devait être une école de passionnés, de profs passionnants et passionnés et d'élèves passionnés. Le reste, on s'en fiche pour moi. C'était juste ça qui était important. C'était juste ça qui était au fondement de l'idée. Peut-être pas du business plan, mais encore que si. Et ça n'a pas du tout changé aujourd'hui. Ça s'est même accentué. Artesan, c'est toujours ça. Mais donc, je te disais, les briques se mettent en place parce que il y avait cette passion de l'excellence pour tout le monde. Il y avait cette passion de l'enseignement. Il y avait cette idée que le en ligne, c'était quelque chose d'innovant, mais qui allait servir je vais utiliser un terme un peu connoté, mais cette évangélisation de l'excellence. Et puis, voilà, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est une visite technique d'usine, c'est d'aller voir une arrière-boutique de cuisine, c'est d'aller voir, d'aller voir, j'adore voir les entre guillemets, et vraiment entre guillemets, petits métiers, ce qu'on appelle les petites mains, voir une main de couturière, je trouve ça fascinant, voir une main de forgeron, donc Artesan, c'est ça, en fait. Et c'est toujours ça, ça a évolué dans le détail, mais le fondement, il est là, d'avant-après, encore.
Ce que je trouve chouette, c'est que souvent, en effet, entre la vision initiale et la vision et ce que sont les entreprises quand elles sont vraiment portées avec le cœur, c'est finalement c'est la même. On garde le cœur qu'on a écrit sur un bout de papier quelques années avant.
Oui, et je pense que j'écrirai la même chose. Ouais, t'as raison. C'est le cœur est là.
Et quand du coup tu as créé Artesane, donc l'idée c'était, est-ce que tu avais en tête tout de suite l'idée que ça serait donc d'aller chercher les talents, les meilleures personnes dans chaque domaine?
Oui. Ça, c'est même ce qui a été difficile au début, parce que c'était. Il faut bien se remettre dans le contexte. On est avant Covid. On est YouTube commence, Instagram commence, mais c'est le début. Les fonctions réelles, live et tout ça, ça n'existe pas. On oublie que ça. Qu'on a vécu sans. Mais en tout cas, la vidéo est pas du tout quelque chose de commun, encore moins dans les savoir-faire manuels. Un savoir-faire manuel, c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre en ligne. En tout cas, c'est le nombre de portes qui se
la
sont fermées.
Que les personnes
ouais.
avaient.
Oui. Et en plus, que je te disais, on a une tradition assez forte du secret. Ça, c'est encore quelque chose où on bataille contre. Moi, je suis convaincue que les secrets, ces secrets-là sont faits pour être partagés, comme ça ils peuvent évoluer, survivre et même vivre, et qu'ils ont un avenir, et que c'est ça qui fait de nous un pays avec des métiers innovants, même dans ceux qui sont séculaires. Et donc oui, Artesane, pour moi, au départ, ça s'appelle les cours vidéo de loisirs créatifs, et il y a donc ça, c'est ce qui est marqué en dessous du logo. Donc ça, c'est dès le business plan, et ça va un peu évoluer. Ça va se transformer en apprendre à créer. Peut-être parce que je voulais retirer le mot loisir créatif. On pourra y revenir, mais voilà, c'est déjà ça. Et à ce moment-là, je me souviens que j'ai fait HEC. Il était temps que je m'en souvienne, parce que je savais toujours pas quoi en faire. Et donc, je toque à la porte de l'incubateur d'HEC, qui est un processus de sélection. Mon dossier est retenu. Et voilà, je veux aussi dire ça parce que j'ai commencé par une note négative sur cette école. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Sans l'incubateur HEC, je sais pas si j'aurais réussi à monter Artesane. J'y ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup aidée. Ça m'a aidée à structurer ma pensée. J'ai compris, même si je suis pas une grande réseauteuse, combien le réseau était important.
Oui, HEC, une des clés en dehors de l'enseignement, c'est son réseau.
Exactement, et c'était vrai. Ça peut être un réseau immédiat comme je te mets en relation avec un tel ou un tel. Moi, par exemple, une des relations fondamentales qui a été faite par le biais de l'incubateur, c'est notre société de production, donc qui produit tous les cours vidéo aujourd'hui, donc depuis 9 ans, qui a grandi avec nous. On partage désormais les mêmes locaux et c'est plus qu'un partenaire, c'est un ami. Et on a créé le modèle Artesane ensemble. Il serait pas tel quel aujourd'hui, et cette personne a réussi à accepter de me faire confiance et de s'adapter à mes idées pour créer quelque chose qui n'existait pas dans le milieu vidéo, et personne ne filmait les arts manuels comme il, et je lui dis souvent qu'il est le seul en France à savoir faire ça. Mais en tout cas, oui. C'est important pour moi de dire que j'ai été aidée, qu'on réussit pas tout seul du tout. Je sais d'ailleurs toujours pas si j'ai réussi quoi que ce soit, mais en tout cas, Artesane existe. Et au-delà de l'équipe, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler, au début, il y a aussi le fait d'oser toquer à des portes. Je me suis vraiment fait violence pour aller présenter mon dossier à l'incubateur. J'avais dit que je serais jamais entrepreneuse. Je pensais que j'étais la dernière personne faite pour ça. C'est pas quelque chose du tout qui m'attirait. Moi, j'étais persuadée que j'étais faite pour le public. Le privé, c'était, c'était, je, J'ai mis longtemps à comprendre, et je pense que c'est ce que j'ai compris au fameux grand oral de l'ENA. J'ai mis longtemps à comprendre que le privé servait aussi l'intérêt général et que je pouvais être utile à mon pays en créant des emplois, en créant des solutions, en créant, voilà, en répondant à un besoin, et que c'était tout aussi utile et que c'était politique aussi. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas grave si je suis pas la présidente de la République.
Et tu disais au début, du coup, c'était dans la baseline, il y avait le mot loisir créatif. Aujourd'hui, on peut passer un CAP grâce à Artézanne.
Ouais.
De quand qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch, du coup, vraiment de la professionnalisation?
Il n'y a pas eu de switch, en fait. Mais effectivement, pourquoi j'ai retiré le mot loisir créatif? Déjà parce que je trouve qu'en France, il a une connotation négative. Le loisir créatif, on a tendance à penser collier de pâtes. Et justement, je veux qu'il perde cette connotation et qu'on le réinvestisse d'un sens plus noble. C'est peut-être parce qu'on a une vision négative des loisirs en général en France, je sais pas, il faudrait faire une psychanalyse nationale. Mais en tout cas, le loisir, enfin moi, je voulais me concentrer sur la notion de création, la notion de passion et la notion d'art et d'artisanat. Quand une femme coud chez elle, elle ne fait rien d'autre que de créer quelque chose, de le créer avec ses mains et de créer une chose qui peut être très belle. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, j'ai fait disparaître le mot loisir. Mais pour moi, en revanche, nos cours vidéo s'adressent, c'est ce que je disais, à des passionnés, donc qui peuvent le pratiquer par passion uniquement, ou se poser la question, et ça s'est fait un peu par hasard, mais se poser la question de se professionnaliser, d'entamer une reconversion. On a eu l'occasion d'en les deux. Et donc, ça s'est fait un peu par hasard, tout simplement parce que je voulais passer mon CAP couture. Et je te disais que j'avais jamais fini d'apprendre. Et donc, hop, un nouveau besoin auquel j'ai envie de répondre. On a cherché à l'époque pour faire des cours vidéo sur la plateforme. Une professeure que tu connais bien,
Charles, ouais.
Voilà, on l'embrasse très fort. C'était en 2017 ou en 2018. On lui a passé un coup de fil en plein mois d'août. Et au départ, c'est simplement des cours vidéo. Et je pense qu'elle, comme moi, on a été abasourdis par le succès de ces cours et le fait qu'on accompagnait réellement des gens qui allaient changer de vie. Et donc, les circonstances aidant, on continue avec un livre qui reste un best-seller qui s'appelle « Passez votre CAP avec Artézanne », donc Christine Charles est l'autrice, qui continue de porter les choses.
Et puis chez Erol, donc une belle maison d'édition.
Oui. Et puis Christine croit dur comme fer à la professionnalisation, moi aussi. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a le Covid et l'environnement réglementaire est en train d'évoluer. Et donc, le CPF apparaît. Il y a plein de choses qui font qu'on se dit oui. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on propose de l'accompagnement à distance, etc. Et c'est comme ça que la partie professionnelle pure d'Artézanne apparaît avec les difficultés qu'on a toujours au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que c'est une intraprise au sein de l'entreprise, enfin c'est de l'entrepreneuriat au sein de la start-up, puisque la formation professionnel, c'est très réglementé et que du coup c'est un parcours du combattant pour faire valider chaque formation, etc. Mais nous, on est en pleine expansion dans cette voie-là. Et oui, je dirais qu'aujourd'hui, Artézanne, c'est apprendre à créer et c'est aussi de la passion à la profession.
Génial.
Voilà.
Trop chouette.
Comment tu écoutes ton intuition?
Comment j'écoute mon intuition? C'est une très bonne question. Je suis très intuitive. Et je pense que c'est ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Comment je l'écoute? En fait, je l'écoute. J'ai très peu confiance en moi, mais en revanche, je suis toujours très convaincue par mon intuition. Je ne sais pas penser autrement, quasiment. Je fonctionne par intuition. Mon mari me dit souvent que sans doute je perçois les micro-signaux et que en fait ça va vite dans ma tête. L'intuition en fait c'est quelque chose qui nous nourrit. C'est pas de la magie. Je pense que c'est pas du tout de la magie. Je pense que c'est une sensibilité très forte au contexte extérieur, à des signaux presque invisibles, mais qu'on les interprète sans même s'en rendre compte. Et l'intuition est devant nous. Donc moi, je la prends et après, j'essaye de la rationaliser, de la décortiquer. Et on parlait de gens qui nous entourent. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que un bon chef d'entreprise, une bonne chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Mais en 9 ans, je me suis rendu compte que ce n'était que ça. J'estime, et il n'y a pas de modestie là-dedans, avoir très peu de mérite. J'estime que ma force dans l'entreprise, c'est d'être l'intuitive du groupe. Et que la force, j'ai même pas envie de dire de mon équipe, j'ai envie de dire des personnes qui font artisanes. Elles m'appartiennent pas, mais elles sont artisanes autant que moi. Et ben, c'est de savoir mettre en musique cette intuition, de la rationaliser, de la défier aussi. Et donc, pour répondre à ta question initiale, comment j'écoute mon intuition? Moi, je livre mon intuition et après, c'est plus entre mes mains.
Dans ton parcours d'entrepreneuse, tu as une singularité, c'est que tu es une maman d'une famille très nombreuse, on peut dire.
Oui, j'ai atteint le taux de 50% sur la famille nombreuse, ce qui veut dire que j'ai 5 enfants. La réalité, d'ailleurs, c'est important pour moi de le dire parce que pour moi, il compte. J'ai 7 enfants. J'ai deux enfants qui ne sont pas, enfin, qui sont nés, mais qui n'ont pas vécu. Donc, famille nombreuse, oui, c'est vrai. J'ai une famille nombreuse qui a grandi en même temps qu'artisane puisque ma première grossesse date de 2015, donc l'année de fondation de Artisan. Et ça s'est enchaîné ensuite, puisque donc ça fait 8 ans, 8 ans et demi, et j'ai 5 enfants, la dernière à 5 mois. Donc Anna, Philomène, Joseph, Aurel et Bérénice. C'est sport, hein? On va pas se mentir, c'est sport. Souvent on me dit comment tu fais? On me dit même parce que moi j'y arrive pas, j'en ai deux et j'ai envie de répondre parce que peut-être il y a des mamans qui nous écoutent et tout. Déjà aucun complexe. Moi quand j'en avais deux, je n'y arrivais pas non plus. C'est-à-dire qu'on s'ajuste au nombre qui arrive. Alors conjuguer les deux, ça m'a été rendu possible peut-être aussi parce que je suis chef d'entreprise. Voilà, il y a la médaille à deux faces, c'est-à-dire que ça, c'est très compliqué parce qu'on est au four et au moulin et que on est un peu diffracté. Il y a toujours 15 cases ouvertes dans ma tête, celles qui concernent l'entreprise et celles qui concernent la vie de famille. Et ça, c'est très fatigant. C'est une charge mentale très lourde, alors, qui pour ma part est partagée à 50%. Donc ça aussi, ça aide, je tiens à le dire.
50% qui en arrive.
Oui,
Ouais.
qui a un métier très très prenant aussi. Voilà, quand c'est le cas, ça rend les choses plus possibles. Donc déjà, ne culpabilisez pas parce que je sais que Il y a plein de femmes pour qui la charge mentale est encore quand même majoritairement chez elles. Là, nous, c'est compliqué, mais on est deux. Je dirais que, en revanche, bah voilà, ma fille est rentrée, elle a 5 mois, elle est rentrée à la crèche il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Ça veut dire que jusqu'à 5 mois, j'ai accouché le 16 août. Le 5 septembre, j'ai repris le travail, comme tout le monde, après les congés d'été. Sauf que j'avais accouché il y a deux semaines auparavant, et que entre la crèche et Bérénice, elle était au bureau. Hein. Elle a été dans les bras de tout le monde. Alors c'est pas toujours pratique. J'ai la chance d'être chef d'entreprise, donc j'ai la chance de pouvoir l'imposer et de pouvoir imposer ce rythme. Et ça me permet de déculpabiliser un peu par rapport à mes enfants, parce que je suis pas toujours aussi présente que je voudrais l'être, mais je les prends plus avec moi aussi. Donc c'est une façon de dire à tous les parents que on fait comme on peut, on s'arrange comme on peut. Je m'arrange ni mieux ni moins bien que ceux qui ont 1, 2 ou 0 enfants. C'est peut-être parfois très très difficile. Je veux pas minimiser non plus les choses, parce que voilà, on se sent forcément coupable. Je suis le genre de maman qui oublie les rendez-vous de pédiatre, vous voyez. Je suis très imparfaite. C'est aussi ça qui me rend les choses possibles. La perfection est impossible quand on est mère tout court, et quand on est mère de 5 enfants et chef d'entreprise aussi. Donc, mon travail, et comme toutes les mères, c'est de l'accepter et de me dire que ça ne fait pas pour autant de moi une mauvaise mère. Mes enfants sont très fiers de moi, de ce que je fais, et ça me fait très plaisir. Ils ont grandi avec Artisan, ils ont grandi dans Artisan, dans les locaux d'Artisan. Voilà, ils ont une vraie fierté de mon travail, et ça me permet de m'épanouir beaucoup. Après, comme toute personne, j'ai un gros travail à faire sur moi-même, et donc sans doute sur mon rapport à la culpabilité et à la gestion de 1000 choses en même temps. Il faudrait que j'apprenne parfois à pas faire 1000 choses en même temps, parce que on peut toujours se retrouver à je sais que c'est un sujet que tu connais, et on peut toujours se retrouver à 2 pas du burn-out. Et souvent, je l'ai senti, notamment à des moments où j'avais eu des grossesses très compliquées. D'une part, moi, je me suis fait aider. J'ai vu des psys. Et il n'y a aucun problème avec ça, et je n'ai aucun problème avec ça. Et surtout, si les gens qui nous écoutent ont besoin d'aide, ou sentent qu'ils débordent, il faut le dire. Moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. Ça peut paraître fort de dire ça, mais ça m'a sauvé la vie, dans le sens où je pense que ma vie se serait effondrée. Soit au niveau de la boîte, soit au niveau de la parentalité, soit à tous les niveaux, si je n'avais pas à un moment demandé de l'aide. Alors, je dis pas que je m'en sors tous les jours, je dis pas que je fais pas encore plein d'erreurs, j'en fais beaucoup, mais je te dis, maintenant j'accepte de dire à mon mari que j'ai envie d'un stylo plume. et voilà. Je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que j'ai beaucoup de chance. J'ai une famille qui va bien, qui est heureuse. L'entreprise, elle connaît des hauts et des bas. Et évidemment, c'est toujours quand ça va pas en entreprise que ça va pas dans la famille. Et quand on en a 5, il y en a toujours un qui a un petit souci. Donc ça, peut-être qu'aujourd'hui, je l'accepte. Longtemps, par exemple, je me suis plainte de pas pouvoir prendre de congé maternité. Le dernier Bérénice, j'avais dit, cette fois-ci, je change. Je vais prendre un congé maternité parce que je pense que c'est la petite dernière. Et si je le fais pas, j'en aurai jamais et j'aurai jamais offert ça à mes enfants, etc. Et puis, Artesane a connu des moments hyper difficiles sur lesquels on n'a pas trop communiqué, mais dû aux circonstances, à la crise. On est une entreprise qui est en croissance, donc ça, c'est hyper chouette, dont le modèle fonctionne. Une entreprise, même en croissance, peut avoir plein de vrais sujets parce qu'on a des sujets techniques, parce que où on se dit, mais est-ce que l'entreprise peut survivre? Et connaître ce genre de crise alors qu'on est enceinte de 8 mois et qu'on se rend compte que non, en fait, le congé maternité, on va pas pouvoir le prendre, c'est dur. Et tu me demandais quel était l'élément déclencheur pour mon stylo, j'en sais rien, mais je crois que j'ai accepté quelque chose que j'avais jamais accepté pour mes autres grossesses. J'ai accepté que peut-être c'était un peu moi qui voulait me retrouver dans des situations où je cumulais. Ma gynéco m'a dit une chose très juste, elle m'a dit, mais je lui disais, oh, mais parfois j'aimerais être comme toutes ces femmes qui sont en congé maternité et que je croise au café du coin quand moi je cours pour prendre mon café et que je les vois posées à manger un brownie parce que elles sont enfin en congé maternité. Elle me dit, mais est-ce que vraiment, vraiment vous tiendriez 2 jours? Et là, je me suis projetée et je me suis dit, est-ce que je supporterais d'être en congé maternité? Et je me suis rendu compte que non. Et que tout ce que j'avais toujours dit, je rêve d'un congé maternité, j'y ai pas droit, etc. Mais j'étais l'unique responsable de pas prendre de congé maternité, que si j'en avais réellement besoin, j'en aurais pris. Et que certes, j'ai un cerveau un peu surchargé, que parfois il faut que je me calme parce que objectivement, c'est trop. Mais qu'en revanche, j'avais toujours adoré faire des choses en même temps. Je t'ai dit que je m'étais mariée et que j'avais passé mon barreau en même temps, que j'avais fait de la cou. Pour moi, la vie, c'est en même temps. J'avais lancé Artesane et j'avais fait un bébé en même temps. Et en fait, d'accepter que c'était ça mon choix de vie et que c'était ça qui me motivait, ça m'a permis pas de régler complètement la frustration, mais de faire un peu plus la paix avec ça. Et peut-être que dans les 10 prochaines années, je vais continuer à faire la paix, j'espère.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée tout à l'heure. Tu as dit, j'ai de la chance, tout va bien. Tu nous as dit que tu avais perdu deux bébés.
Oui.
Je trouve ça génial que tu arrives. Il y a des personnes qui et il y a aucun jugement, hein, qui s'effondrent et qui se disent toute leur vie, qui vivent ça avec ça comme un fardeau. Comment toi tu, parce que du coup je crois que c'est 2 enfants mais qui sont pas nés en même temps, c'était des grossesses différentes. Comment
oui.
T'as traversé ça?
D'abord, j'ai perdu une petite fille, Emmanuelle, donc qui est la sœur jumelle d'Aurel, et qui a perdu la vie à quelques semaines avant la fin de la grossesse. Je sais pas comment on traverse ça. Pour moi, ça a été important qu'elle ait une tombe, qu'elle ait un nom. J'y pense tous les jours. Je crois pas en Dieu. Ça rend les choses très difficiles. J'aurais préféré croire en Dieu parce que je me dis qu'elle n'existe pas, nulle part. Donc, ce qui était important pour moi, c'était le lieu où on l'a enterré, donc en Normandie, près de la mer. C'était d'en parler à ses frères et sœurs, qui du coup considèrent qu'ils ont une sœur. Donc, pour moi, elle a pas vécu, mais elle a existé. Ce qui est compliqué aussi, c'est que c'était une grossesse gémellaire, donc on vit avec un enfant vivant et un enfant mort dans son ventre, donc le ventre est aussi un tombeau. Je vais te dire des choses un peu glauques, mais parce qu'il y a peut-être des personnes qui traversent ça, donc l'enfant se désagrège petit à petit dans le ventre et on accouche donc d'un enfant presque momifié et d'un enfant vivant. Donc, on accueille la vie et la mort en même temps. Déjà, je me suis fait aider. Je m'étais déjà, enfin, par la même personne qui m'a accompagnée avant, donc un pédopsie. Donc, on se dit que c'est le psy des enfants, la pédopsie, mais c'est aussi le psy des parents. Dans leur parentalité, ils m'avaient accompagnée parce que Joseph, qui avait précédé, a eu une maladie dans mon ventre. Il se porte très bien aujourd'hui, mais du coup, la grossesse avait été aussi très compliquée. Il faut pas rester seul. On choisit l'aide qu'on veut. Ça peut être une coach, ça peut être un ou une psy, ça peut être. Mais on choisit l'aide qu'on veut. Je suis quelqu'un de très discret, je parle pas beaucoup. Faire ça, c'était déjà sans doute l'occasion d'en parler avec mon mari, d'en parler tout court. Mais oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que cet enfant est une tombe avec son nom dessus, dans un lieu qui est important pour mon mari et moi. Et voilà. Et d'ailleurs, le jour de l'enterrement, j'ai reçu un bouquet de fleurs des personnes avec qui je travaille. J'ai été hyper touchée de ça, on ne l'aurait jamais dit, mais parce que ça voulait dire que mon entourage considérait aussi que cet enfant avait existé. Voilà, donc ça c'est Emmanuel. Et ensuite, entre Emmanuel et... Enfin, Aurèle et Emmanuel et puis Bérénice, il y a eu un enfant aussi que j'ai perdu avec 4 mois de grossesse. Donc juste un mois après le fatidique cap des 3 mois, tout se passait bien, il n'y avait pas d'explication. Dans les deux cas, il n'y a eu aucune explication, il n'y avait aucun sujet. Et je pense que là, ça a été compliqué parce qu'on ne savait pas pourquoi, on voulait savoir pourquoi, on a envisagé une dernière grossesse. Je savais qu'il allait falloir que j'accouche. Et là, il y avait juste la mort, il n'y avait pas la vie. Que je l'avais à peine dit que j'étais enceinte. Donc, je crois qu'il y a certaines personnes où je leur ai dit la veille et le lendemain, j'ai dû envoyer un message pour dire, en fait, non. J'ai dû aller à la clinique où je venais d'accoucher, enfin, où j'avais accouché un an avant pour accoucher de nouveau. Et on est en maternité. On est avec tous les cris de bébé. On est avec le petit berceau qui attend et qui va rester vide. Et l'accouchement est déclenché. Donc, tout est pareil, sauf que c'est pas pareil. C'est comment on vit ça? Pas très bien. Surtout que là, j'étais à une date limite et j'étais trop émotive, enfin trop touchée. Parce que je suis quand même une ancienne avocate, donc j'ai fait mes recherches après, et donc je le dis ici. Votre enfant, il peut avoir un nom, même à 4 mois de grossesse, contrairement à ce que on m'a dit à la maternité, et on m'a dit, non, mais il sera traité comme un déchet, donc vous pouvez pas récupérer le corps et vous pouvez pas l'enterrer. Et en fait, c'était faux, mais je l'ai su après.
À part cet enfant. Tu peux récupérer,
Alors tu peux faire 2 choses. Donc c'est 15, je crois que c'est 16 semaines. 16 semaines, on peut donner un nom. Mais ce que les maternités ne savent pas, c'est que avant 16 semaines, surtout si on accouche comme c'était mon cas par voie basse, donc j'ai vu le fœtus, etc. À partir du moment où il y a un fœtus, même s'il n'est pas considéré comme tel, il est considéré, c'est assez corps, hein, mais comme un déchet de notre corps humain. Si c'est un déchet de notre corps, on a le droit de le récupérer parce que c'est notre corps. Donc c'est un autre statut, mais dans ce cas, on peut le récupérer et décider de l'enterrer nous-mêmes.
Puisque, comme ton placenta, comme le placenta.
Exactement. Droit de demander. Exactement. Donc vous avez le droit de demander. Et l'hôpital doit accepter cette demande. Donc, et dans ce cas, libre à vous de faire un lieu pour vous souvenir et enterrer. Donc, Donc voilà, on l'a pas fait. J'étais trop pour arriver à regarder ça à ce moment-là. Mais si c'est, ça peut être utile que je l'ai fait par la suite. Voilà. Donc comment on survit à ça? Bah déjà on a 5 enfants. Donc on y survit. Et puis la vie, sur le coup, il y avait très peu de personnes, y compris de mon équipe, qui savaient que en fait j'étais à la maternité en train d'accoucher. Et il y avait plein de problèmes, les problèmes du quotidien. Mais du coup, à la maternité, j'ai pris 3 jours. Et puis voilà, on remonte en selle. Donc on se fait accompagner, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie des choix que la vie ne nous laisse pas. Et peut-être que c'est bien comme ça.
Quand tu dis on survit, ça me fait penser à Agnès Le Dic que j'ai interviewée. Et Agnès, elle a perdu son fils. Alors, je sais plus à quel âge il avait, mais il devait peut-être avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle disait que elle survivait, mais pas dans le sens où qu'on l'entend dans le sens commun. C'est vraiment survivre. Elle me dit, je vis plus justement pour vivre pour lui.
Bah, elle a raison, le sur, il est additif. J'investis tellement la vie de mes enfants, elle me nourrit tellement. Et puis on a des pensées qui sont des pensées qui peuvent paraître tristes, mais qui le sont pas. C'est-à-dire que je me dis que si Emmanuel est pas là aujourd'hui, si le petit bébé qui lui a succédé est pas là aussi, ce que je dois retenir, c'est que je les ai aimés et que leur absence me donne une autre chance, qui est celle de connaître Bérénice aussi,
ouais.
Que parce que j'aurais probablement pas fait d'autres enfants après. On voulait 4 enfants, hein, et puis quand on a perdu, quand on a appris la grossesse gémellaire, on était super contents. On s'est dit, on l'a accueilli tout de suite, et puis on s'est dit, bah c'est le signe que notre famille, elle sera complète à 5. Et oui, on vit très. Enfin, je te disais tout à l'heure que j'étais heureuse. C'est une phrase forte pour moi de dire ça parce que j'ai un tempérament mélancolique, nostalgique, torturé, tout ce que tu veux, angoissé. Mais j'ai conscience de mon bonheur et du fait qu'il m'emplit et peut-être encore plus grâce à ces événements-là. Voilà.
Ouais, un peu. Tu es la preuve que on peut en effet se trouver du sens dans chaque épreuve de la vie et les transformer en une graine positive.
Oui, et c'est ça le sens de survivre. C'est pas du tout un mot négatif. C'est qu'on vit après, on vit plus. Ça veut pas dire survie au sens je suis au fond d'un lac et je surnage. Ah, c'est mon rôle de maman de surnager. Mais en réalité, la survie est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est la résilience dont je te parlais tout à l'heure, qui peut arriver professionnellement, qui peut arriver personnellement. Voilà. Il y a très peu de choses dont j'ai peur. Je crois que j'ai, comme tout le monde, la seule vraie peur que j'ai, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et voilà, c'est arrivé à des enfants qui n'ont pas vécu. Voilà, j'espère juste arriver à protéger mes enfants qui vivent aujourd'hui.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Au moment de la fondation d'Artesane, je t'avais dit que je voulais pas du tout être entrepreneur. Et du coup, je me suis certainement dit pourquoi pas moi. Très clairement, parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Je suis devenue ce que je pensais que je ne serais jamais. Et en toute cohérence. Donc c'est ça l'absurdité de la chose, c'est que parfois on est cohérent alors même que c'est exactement. On pensait ne pas être fait pour ce métier. Je pensais ne pas être faite pour être entrepreneuse, ne pas être capable de mener une entreprise au profit. Et je parle de profit de façon tout à fait décomplexée parce que c'est pas du tout gagner beaucoup d'argent qui m'intéresse, mais juste le profit, c'est ce qui me permet de. Moi, je le vois de façon très très simple. Le profit, c'est ce qui me permet d'investir dans quelque chose en quoi je crois et qui me permet de payer des emplois qui sont géniaux et de créer des emplois. Et donc oui, moi, le profit, j'en avais une vision un peu négative. Et ouais, maintenant je me dis pourquoi pas moi qui fais du profit. Et le profit, c'est profitable à la société. Voilà. Et donc oui, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je suis pas présidente de la République, mais je suis présidente de quelque chose qui est utile à
Marrant
la
que tu parles de
société.
profitable, c'est que j'ai créé un programme là récemment qui s'appelle Créer son entreprise alignée et profitable. Et justement, dans la notion de profit, on entend par le fait de voilà, de c'est profitable pour la société, c'est profitable pour soi, c'est rentable parce que on a besoin, on a des réalités économiques qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que ce mot profitable, il est très beau. Hein.
Et je pense vraiment qu'il faut le réinvestir de tout son sens. Tu as totalement raison. Et sur ta première partie aussi, alignée, puisque finalement, je te dis que je suis plutôt alignée pour le moment, avec ce que j'étais, avec ce que j'ai envie de devenir. Il manque peut-être une case et encore, elle manque pas complètement. Peut-être qu'un jour, j'écrirai, autre chose que des articles. Mais voilà, le stylo plumé est là et ça me sera profitable.
Comment tu célèbres tes réussites?
C'est affreux ta question. C'est mon plus gros défaut, je ne célèbre jamais les réussites, les miennes, et pas, je ne célèbre pas assez celles des autres. Pourtant, j'en suis très fière, plus fière de celles des miennes. C'est peut-être le défaut de ma qualité, c'est que je suis toujours dans l'après, dans ce que je dois faire, dans ce qu'il faut faire, et donc dans ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est une superstition qui, à mon avis, me vient de mon éducation un peu jésuite. Déjà, on peut toujours mieux faire. C'est ce qu'on me disait sur mon bulletin. Donc, je n'ose jamais célébrer une réussite parce que pour moi, elle n'est pas complète et elle est jamais totale, elle est jamais. Je pense que j'ai pas fait attention, mais je pense que j'ai dû te dire 25 fois réussi, que ma réussite n'était pas certaine, qu'Artésane n'était pas finie, et c'est tout ça est vrai. Mais il faut savoir s'arrêter sur chaque micro réussite, et ça, je sais pas encore le faire, je sais pas encore célébrer. Donc voilà, c'est à apprendre. Déjà, j'apprends en célébrant celle des autres.
C'est déjà de les voir, en effet.
Voilà.
C'est quoi d'ailleurs pour toi la réussite?
Eva, faut que tu arrêtes avec tes questions. Non, mais c'est exactement pour ça que j'ai du mal à les célébrer aussi. C'est parce que je ne sais jamais quand la réussite est là. Je sais pas la reconnaître. Je pense que je suis très. Il y avait une histoire racontée par Platon. Alors Platon, c'était le nom de mon chien, mais c'est aussi le nom d'un philosophe grec. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans l'enfance. C'était Platon, mon chien. Et puis après, j'ai aimé beaucoup le latin et le grec. Donc cette histoire de Platon dans la bouche de Socrate et qui raconte que qu'un vieux sage Cholon n'a jamais su dire si un homme les hommes allaient le voir et lui demandaient s'il avait réussi, s'ils avaient réussi ou non, s'ils allaient réussir, et il disait bah tu ne le sauras que ta mort venue. Et c'est vrai que pour moi la réussite c'est quelque chose sur lequel on se retourne et qu'on contemple a posteriori. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je me dis en tout cas que ma famille est réussie et je souhaite qu'elle le reste. La réussite, c'est des moments où on se sent en convergence avec nos envies, les moyens qu'on a mis pour les réaliser et ce qu'elles apportent aux autres. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est en regardant derrière qu'on s'en aperçoit.
C'est quoi pour toi un échec?
Un échec, c'est marrant parce que les échecs, ça devrait être le truc dont j'ai le plus peur, parce que je suis faite comme ça, je suis faite pour passer des concours, etc. Et paradoxalement, c'est ce à quoi j'ai bien survécu. Jusqu'à maintenant, un échec, c'est un moment où on réalise qu'on a fait des erreurs, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Est-ce qu'on aurait pu les prendre ou pas? Je ne sais pas, mais voilà, on regarde derrière soi et on voit le résultat dans le présent des erreurs. Ça, c'est très vrai pour une chef d'entreprise. J'imagine que c'est très vrai en tant que parent aussi. On voit que l'erreur, enfin que la situation complexe dans laquelle on se trouve est née de toute une série de mauvaises décisions. Et on se dit, mon Dieu, j'aurais dû faire ça. Ça m'arrive tous les jours. Et ça, je les vois beaucoup plus que les réussites, surtout chez moi. Mais c'est toujours facile d'avoir l'esprit critique. C'est beaucoup plus facile.
Le cerveau est comme ça.
Ouais. Mmh. Donc un échec, c'est quand on se rend compte qu'on n'a pas pris les bonnes décisions et qu'on en vit les conséquences.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Anne-Sara de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Elle me dirait peut-être deux choses. Trois. Elle me dirait reviens me voir au Sénégal. Elle me dirait tu vois, t'es capable d'avoir des enfants parce que comme j'aimais pas jouer à la poupée, j'étais persuadée que je serais incapable d'élever des enfants. Et la troisième, elle me dirait bon, il est temps d'écrire maintenant. Voilà.
Trop chouette. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements?
T'as vu que c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal à renoncer. Je te dis que alors c'est pas macroniste, mais je fais tout en même temps. Mes renoncements. Alors pour moi, le renoncement, c'est quelque chose où on choisit. C'est pas le destin. C'est nous, on doit choisir à un moment quelque chose ou quelque chose d'autre. J'ai temporairement renoncé à l'écriture. Est-ce que j'ai renoncé à beaucoup de trucs? J'ai du mal avec ça, donc faudrait que j'apprenne parfois à renoncer. Voilà, c'est tout. C'est l'écriture pour le moment.
Et l'écriture, c'est ton rêve, c'est d'écrire quoi? Un roman de...
Oui, des romans. Ouais. Des romans. J'écris beaucoup hein, dans mon quotidien, des articles, on écrit des revues pour Artisan, donc j'écris beaucoup d'articles sur l'histoire de la mode, des choses comme ça. Mais moi, je trouve que ce sont les livres qui gouvernent le monde, qui donnent un sens aux choses. Je vibre quand je lis et donc je voudrais pouvoir apporter ça à des lecteurs. Donc je renonce aujourd'hui, mais de moins en moins. Voilà, peut-être que
on en reparle.
Ça vient. Ouais.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Je suis pas fière de grand chose. Je suis pas fière de grand chose. Je pourrais te dire que je suis fière de mes enfants et de mon mari, mais je considère que oui, ils m'emplissent de fierté, mais que c'est pas grâce à moi, peut-être un peu aussi. Et voilà. Je ne suis pas fière de grand-chose en réalité.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
On entend beaucoup. Je suis la première à l'écouter. Et votre à l'épreuve de la réalité. Une intuition sans outil, ça ne sert à rien.
Ouais, je suis toujours là, mais j'ai dû me. Il y a des travaux juste à côté.
Oui.
J'ai basculé le wifi.
Il n'y a pas de problème.
J'ai enlevé la caméra, mais je suis toujours là.
Pas de problème. Non, mais écoute, oui, on peut se casser la figure si on fait qu'écouter son intuition. Donc oui, vous avez vos tripes, vous avez tout ça, mais l'intuition n'est rien sans l'épreuve de la réalité. Donc déjà, quand vous avez des idées, confrontez-les aux autres et au réel et testez, apprenez à reculer quand il faut.
Le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
À moi?
Ouais.
D'être rigoureuse. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Mais des profils plutôt créatifs comme moi, on peut partir dans tous les sens. Et donc, quelque part, c'est pas mal que j'ai une éducation très exigeante et tout, parce que ça a permis d'équilibrer mon côté un peu naturellement bordélique, si tu me permets l'expression. Ça revient un peu ce que je disais juste avant. Essayez de soit de vous entourer de personnes contraires, mais contraires positivement, soit en tout cas, oui, voilà. Il faut avoir une ligne de conduite. La rigueur, c'est pas juste savoir aligner des chiffres, ce que vous avez peut-être compris, je ne sais pas très bien faire. C'est aussi d'avoir une colonne vertébrale, d'avoir un chemin, de s'y tenir, d'être droite dans ses bottes, d'être honnête. Donc le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est presque pas un conseil, c'est une éducation. C'est d'être honnête. D'être droite dans ses bottes, de voilà.
C'est quoi tes prochains défis?
Professionnellement, c'est d'aller plus loin dans la formation professionnelle et de faire d'Artesane cette grande école ouverte à tous et toutes de la reconversion. Et sinon, mon défi, il est d'écrire, de me mettre à écrire. De trouver du temps pour ça dans ma vie un peu folle. Et mon vrai défi, mon unique défi, c'est de rendre ma famille heureuse. Et c'est pas facile.
Pour les personnes qui voudraient avoir du coup des renseignements sur Artesane, aujourd'hui, vous formez à quel loisir, dans le sens noble de la chose, et
oui.
Activité professionnalisante?
Alors, on a trois grands domaines, les arts du fil, donc ça va de la couture à la broderie, au tricot, à la maroquinerie, c'est les arts du fil in extenso, et ça, c'est notre cœur de métier. On propose aussi des arts plastiques, là aussi, c'est très large, ça va de l'aquarelle à la céramique, à la poterie, la peinture à l'huile, le dessin de mode, et les arts culinaires, cuisine. Pâtisserie, œnologie, mixologie. Mais notre cœur de métier initial, et c'est toujours celui-là, c'est les arts du fil, où là, on a accéléré sur le développement des formations professionnalisantes. Donc, il y a celle avec Christine Charles, mais on a donc le CAP Couture Flou, donc avec l'organisme Rêve à Soi, mais aussi, le CAP Couture Tailleur, et on a plein de projets de formation professionnelle dans les arts du film.
Super.
Mais il faut toujours commencer par la passion avant.
Oui, c'est sûr. Si une personne nous écoute et hésite à écouter sa petite voix parce qu'elle est dans sa zone de confort qui est finalement inconfortable, mais quand même un petit peu confortable, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Il ne faut pas avoir peur de quitter sa zone de confort parce que la zone de confort nous a suffisamment nourri pour qu'on en fasse quelque chose après. On en avait parlé ensemble, mais déjà une reconversion, le mot fait qu'on a l'impression que c'est une révolution copernicienne, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, même une révolution copernicienne se nourrit de ce qu'on a été, de ce qu'on a appris. Donc déjà, si vous avez envie d'écouter votre petite voix, c'est que peut-être vous avez appris beaucoup de choses, que vous identifiez quelque chose. Donc prenez le temps de le formaliser d'une manière ou d'une autre. Un accompagnement, un incubateur, vos proches. Déjà, ça vous aidera à voir si vous voulez avancer plus loin pour écouter cette petite voix. La petite voix, on a dit, faut la mettre à l'épreuve du réel. Donc mettez votre intuition à l'épreuve du réel. Le réel, c'est les autres et c'est les outils qui vont vous donner. Et ensuite, enfin, les révolutions ne se font pas en un jour, donc peut-être que vous allez y aller pas à pas et que les choses se passaient presque toutes seules.
Top.
Est-ce que tu es toujours là?
Oui, je suis toujours là. Oui, je suis là. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous?
Ah, c'est difficile. Alors, j'en aurais plein. Mais je vais vous conseiller quelque chose que j'ai relu trois fois et puis comme ça vous aurez de quoi vous mettre sous la dent parce que il y a sept tomes et là c'est les sept tomes je les ai relus pendant ma fin de grossesse et ce sont Les Rois Maudits de Maurice Druon sur une période de l'histoire de France qui est passionnante parce que c'est un peu le moment où la France en tant qu'État et en tant que nation se constitue. Génial, c'est une aventure, c'est très bien écrit. On voit passer des rois dont on ignore complètement l'existence aujourd'hui. Si je vous dis Philippe V, tout le monde l'a oublié, d'ailleurs peut-être à raison, mais moi j'aime beaucoup les grandes aventures, j'aime beaucoup les longues histoires, j'aime beaucoup les sagas. C'est très très bien écrit. Et si je peux me permettre, essayez les livres audio. Moi, je suis très manuelle, donc j'ai besoin de faire quelque chose de mes doigts. Donc, quand je tricote, je mets des livres audio. Et c'est très beau d'entendre un livre, surtout quand c'est bien dit. Et c'est une autre façon d'aborder la lecture. Il y a mille choses. C'est peut-être une façon de rentrer dans la lecture aussi.
Oh, chouette. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
À mes parents, évidemment, parce qu'ils m'ont très bien éduquée, m'ont offert une enfance très heureuse et que malgré leurs doutes, ils m'ont quand même soutenue dans mes choix. Et je pense qu'ils sont fiers de moi. À mon mari, évidemment. Et j'ai envie de dire que tout est dans le évidemment. Voilà, c'est mon compagnon. Et je dirais que des choses très banales sur lui qui ne sont pas à la mesure de l'amour que je lui porte. Donc, je vais m'arrêter sur mon mari. Et j'ai envie de dire à un grand merci à l'équipe artisane. Et à Armel, Marie-Gabrielle et Pauline. Pauline, c'est ma petite sœur qui travaille avec moi. Armel et Marie-Gabrielle, qui sont sœurs aussi. Et elles ont fait ce qui est artisanal aujourd'hui. Mais pas seulement. Toute l'équipe actuelle Vraiment, et notamment les personnes qui nous ont rejoints récemment. Je suis vraiment chanceuse de vivre cette aventure professionnelle avec cette équipe. C'est pas mon équipe, c'est l'équipe d'Artisan.
C'est génial que ça soit transformé en aventure familiale.
Bah, ça s'est complètement fait par hasard. Ça, c'est des sœurs qui se sont ajoutées à des sœurs. Ma sœur a rejoint l'aventure il y a 2 ans. Et Armelle, il y a 4 ans, mais au départ, c'était avec Marie-Gabrielle, qui est notre directrice artistique. Donc, nos sœurs respectives se sont ajoutées. On avait toujours dit qu'on ne voulait pas d'entreprise familiale et qu'on entrepreneur et je ne travaillerai jamais avec ma sœur. J'avais tout faux.
Un immense merci, Sarah, de t'être livrée ainsi. Vraiment, je suis convaincue que ça va pouvoir aider énormément de personnes. Et pour retrouver du coup Artisan, je mettrai le lien sur le blog pourquoipasmoi.co, mais donc on peut vous retrouver sur artisan.com et puis évidemment sur tous les réseaux sociaux.
Ben moi, j'étais très heureuse d'intervenir, Charlotte. Et voilà, si je peux être utile à quelqu'un, il ne faut pas hésiter à me contacter.
Merci beaucoup.
Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter. Et suis pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire pourquoi pas moi ?